ton dos parfait comme un désert quand la tempête passe sur moi. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre mon manque d'air. Et midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les nids. Tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort, un envoi du ciel. Je ne crois pas mon corps. Était une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai portrait de ton père. Une daredevil, Nefertiti, des sensations, c'est ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taillé. Pour moi, te dis à ta chum, check le gars avec des lunettes. Je vais te gager un rhum que j'y fixe le squelette. Et midi moins cinq, et la femme de ménage est là pour faire rien que compter les naufrages. Tellement, tellement, tellement belle. Un bateau géant dans chambre à coucher. Je suis l'océan qui veut toucher ton. Je pense que je l'ai, je t'ai sauvé la vie dans quelque pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit, va pas à Pompéi. C'est quoi d'abord, si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tordu le cœur. J't'arrive drette avant que tu meurs. C'est pas pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent, tu voulais-tu me tuer? Et midi tapant et la femme de ménage à cognant hurlant, je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle, je vais bénir la rue, je vais brûler l'autel. Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu?
Monsieur Richard Desjardins, en version symphonique, tirée de l'album Richard Desjardins Symphonique, paru en 2009, cette excellente pièce, Tu m'aimes-tu?
Excellent choix, Jean-Sébastien. Livre pour amorcer ce segment culturel, Frédéric Becbédé, éternel écrivain. Dans Une vie sans fin, Frédéric Becbédé mène une enquête journalistique sur les avancées scientifiques qui permettront bientôt de prolonger notre vie. En filigrane, l'auteur de 99 ans accepte finalement de vieillir et d'assumer son rôle de père. Nous avons profité de la sortie de son roman pour parler d'écriture, de paternité et de relations hommes-femmes à l'heure de « Moi aussi » et de « Balance ton porc ». C'est Nathalie Collard qui l'a rencontré. Comment vous est venue l'idée d'un roman sur la vie éternelle? J'ai toujours eu peur de mourir. Je parle de ça dans presque tous mes romans. Tous les écrivains parlent d'abattre la mort. C'est pour ça qu'on écrit, je crois. Ensuite, ma mère a eu un infarctus et mon père est tombé dans un hôtel. Les deux se sont retrouvés à l'hôpital au même moment et j'ai perdu des amis de mon âge. Bref, j'ai compris que ça se rapprochait pour moi aussi. Et surtout, il y a eu cette question de ma fille. Est-ce vrai que tout le monde va mourir? Je suis un lâche, je n'ai pas osé lui répondre la vérité. Alors je lui ai dit qu'aujourd'hui, on ne mourrait plus. Et j'ai décidé de me lancer dans cette enquête complètement dingue. C'est un roman, mais c'est aussi une enquête journalistique. Comment l'avez-vous construit? J'ai toujours écrit des livres qui étaient un mélange de fiction et de non-fiction. 99 francs était à la fois un roman sur un publicitaire qui pète les plombs et une enquête, voire un essai sur le fonctionnement de ce métier. J'aime bien écrire des choses documentées et réalistes, mais en même temps, ça ne m'interdit pas d'inventer des choses, des personnages. J'essaie de faire tomber la frontière entre la fiction et la non-fiction. Question. Vous avez rencontré des sommités de la recherche scientifique en Europe et aux États-Unis. Étiez-vous surpris qu'ils aient le temps de discuter avec un romancier? Je crois qu'ils ont envie d'expliquer ce qu'ils font, pas seulement aux collègues, mais à des gens d'autres horizons. Ce qui se passe en ce moment est tellement incroyable. Ils ont tous fait un gros effort de pédagogie pour expliquer des choses complexes avec des mots simples. Ils m'ont parlé comme si j'étais un enfant de 4 ans, rire entre parenthèses. Par ailleurs, j'avais un peu potassé avant. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur les progrès de la génétique, les cellules souches, etc. Question. Vous parlez beaucoup de votre paternité dans ce livre. Ce livre, au départ, est l'histoire d'un homme de 50 ans qui a peur de mourir et qui essaie de sauver sa peau et celle de ses enfants. Mais au fur et à mesure qu'il poursuit son enquête sur l'immortalité, il découvre qu'il est déjà immortel grâce à sa paternité. En fait, pas besoin d'aller chercher trop loin. L'amour et la littérature sont les deux choses qui nous permettent de battre la mort. Mon roman est un livre sur un homme qui se transforme. Parlant de transformation, le monde dans lequel vous publiez ce livre n'est pas tout à fait le même que celui dans lequel vous avez commencé sa rédaction. Que pensez-vous des mouvements comme « Moi aussi » et « Balance ton porc » ? Je suis le père de deux filles, dont l'une de 18 ans. Évidemment que je suis archi favorable à ce que toutes les agressions sexuelles soient dénoncées et punies. Je suis contre le harcèlement, contre les hommes qui importunent les femmes, ça me choque. Je n'ai pas du tout envie que ma fille soit importunée dans la rue. Je veux qu'elle puisse s'habiller comme elle le souhaite, qu'elle soit payée le même salaire qu'un homme. Je dis des banalités, mais il ne faut pas les oublier, car il n'y a pas que les femmes qui doivent être féministes, les hommes aussi. Un homme comme moi est tout naturellement pour l'égalité entre hommes et femmes, je veux être claire là-dessus. Après, je crois qu'il y a des excès. Balance ton porc est une formulation épouvantable. Je n'aime pas qu'on balance et je n'aime pas qu'un homme soit comparé à un porc. Il y a une infime minorité d'hommes qui sont des gros cons et même des criminels. Et je suis pour qu'on les punisse, mais ensuite, il faut qu'on arrive à trouver un nouveau code amoureux pour faire en sorte que les hommes et les femmes puissent continuer à s'aimer. C'est ça l'enjeu, non? Comment on va faire pour s'aimer? Vous avez quelques idées? Peut-être que les femmes devraient aborder les hommes un peu plus souvent, répond Frédéric Becbédé. Pour les hommes, c'est quand même difficile. Il faut avoir du courage pour oser exprimer son désir. C'est compliqué. Il faut le faire avec délicatesse et tact. Il faut accepter de nombreux refus. Et dans ma vie, Dieu sait comment j'en ai eu des refus. Rire encore, entre parenthèses. Quand quelqu'un vous dit non, ça fait mal. C'est une déception, il faut encaisser. Après 10 000 ans de domination masculine, il est temps que ce soit les femmes qui fassent les premiers pas. Moi, je ne bouge plus. Je reste assis dans mon fauteuil et j'attends qu'on vienne me parler. Rire encore une fois. De toute façon, je suis un homme marié et je suis fidèle, alors le problème ne se pose pas. Question. Qu'avez-vous pensé de la fameuse lettre sur le droit d'importuner signée par Deneuve, Millet, etc.? J'ai trouvé que c'était une belle démarche courageuse de dire que la drague n'est pas un délit. Une phrase que j'ai trouvée importante d'entendre en tant qu'homme. En revanche, je ne souhaite pas que ma fille soit importunée et je crois que c'était maladroit d'employer ce terme. C'était également maladroit de dire qu'on se remet facilement d'une main aux fesses ou de quelqu'un qui se frotte contre nous. C'est grave, c'est une forme d'irrespect et de violence et c'est répréhensible. Cette lettre qui était destinée à apaiser les choses n'a rien apaisé du tout. Donc, je pense qu'elle n'était pas très bien rédigée. Je pense souvent à cette phrase de Marguerite Duras dans « Hiroshima, mon amour ». Tu me plais. Quel événement! Quand une personne regarde une autre personne, c'est un événement précieux qu'il faut protéger. Ce qui m'emmerde dans toute cette histoire, c'est qu'on abîme le désir à cause de certains hommes. Une vie sans fin de Frédéric Becbédé est disponible et publiée aux éditions Grasset, 360 pages de lecture. Dans le Journal de Montréal, on apprend que Sophie Lorrain a un nouveau projet. L'actrice planche sur une série de 24 épisodes adaptés d'une émission populaire en France. Sophie Lorrain n'aura pas besoin d'appeler son agent pour trouver du travail après Au secours de Béatrice. L'actrice produira, réalisera et jouera dans l'adaptation québécoise de 10%, cette populaire série française qui explore les dessous d'une agence artistique et dans laquelle des personnalités connues viennent jouer leur propre rôle. Cette nouvelle mouture entrera en onde en septembre, composée de 24 épisodes d'une heure. La première saison sera produite par Forum Film et Also, la boîte de Sophie Lorrain et Alexis Durand-Brault en collaboration avec Québécois.
Touch the moonlight when your heart is shooting stars, you're holding heaven in your arms. Have you ever been so in love? Have you ever walked on air? Ever felt like you were dreaming? That good? Have you ever been so in love? Have you ever been in love? You could touch the moonlight when your heart is shooting stars, you're holding hands. Have you ever been in love? Have you ever said a prayer and found that it was answered? All my hope has been restored and I ain't looking anymore. Have you ever been so in love? Have you? Some place that you somewhere you gonna stay, yeah. When you finally found the meaning, have you ever felt this way, yeah. The time I spent waiting for something that was
Madame Céline Dion, have you ever been in love?
Allons-y avec un article dans Le Devoir. La ville retire le visuel contesté par l'artiste Logart. La ville de Montréal a retiré de ses plateformes numériques l'illustration qu'elle avait commandée pour le défi des villes intelligentes à la suite des accusations de plagiat d'un artiste montréalais. C'est Guillaume Bourgault-Côté qui signe l'article. Le studio qui a créé le visuel dément toute intention de copier. La Ville de Montréal prend très au sérieux l'intégrité des processus créatifs en production graphique, a indiqué au Devoir un relationniste de celle-ci. Nous avons retiré l'illustration de nos différentes plateformes le temps que des vérifications diligentes soient effectuées dans ce dossier. Pour Mouna Andraos, cofondatrice de la firme qui a produit le visuel, Daily tous les jours, le dossier découle d'un malentendu. Nous sommes tristes qu'on accuse la ville de vol parce qu'il n'y avait de notre côté aucune intention de copier, disait-elle mardi en entretien. La semaine dernière, l'artiste Logart, Chris Sweden, avait dénoncé notamment dans Le Devoir que le visuel de la campagne Défi des villes intelligentes utilise un graphisme qui non seulement s'inspire grandement des illustrations CityLine créées en 2014, mais qui utilise aussi plusieurs éléments provenant de celle-ci et ce, de façon identique. Nous aussi sommes surpris par la ressemblance entre notre visuel et votre travail, avait rapidement répondu la ville dans un message Facebook. Depuis, Montréal ne veut plus commenter un dossier qui pourrait être judiciarisé. Logart a envoyé une mise en demeure et demande un dédommagement. Quelques 700 personnes ont signé une pétition pour l'appuyer. Mouna Andraos défend aujourd'hui le processus créatif ayant mené à la création du visuel. Celui-ci a été créé cet automne en marge d'un congrès portant sur les villes intelligentes où les activités d'une ville intelligente devaient être présentées dans un langage visuel simple et clair, relate-t-elle. Le visuel contesté par Logart présente des extraits de dessins plus grands publiés dans le cadre de ce congrès. Il constitue une représentation horizontale et épurée de quelques lieux cultes de Montréal. Selon Mouna Andraos, il est presque inévitable qu'il y ait des similitudes entre différentes illustrations quand on dessine des icônes et qu'on cherche à simplifier leur représentation, dit-elle. Si on demande à quatre illustrateurs d'illustrer le stade olympique, on aura des illustrations plus ou moins similaires. Le problème, c'est le plus ou moins. Mais entre ça et le plagiat, il y a une grande différence. Elle prend l'exemple de l'oratoire Saint-Joseph très semblable dans les versions de Lugart et Daly. Il arrive que pour le même défi, on trouve les mêmes solutions, dit-elle. Il y a 5 portes et fenêtres au bas de l'oratoire, mais on en voit 3 sur les dessins. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de proportion. 5, ça ne rentre pas. Alors on simplifie et on va naturellement prendre un chiffre impair. Beaucoup de gens travaillent sur la simplification des images, ajoute-t-elle. Les techniques peuvent se ressembler. Nous sommes aussi tous exposés aux mêmes choses en ligne. Madame Andreas soutient que Daly, qui a notamment créé une œuvre de l'exposition sur Leonard Cohen au Musée d'art contemporain de Montréal, a fait une introspection profonde et est remonté aux premières versions des dessins pour conclure que tout a été fait correctement. La montagne cul-de-sac, c'est la chronique de Marie-Claude Lortie dans la presse. C'est vrai, admet Luc Ferrandez, que c'est réellement une pause fortuite, presque un moment de grâce. J'ai Luc Ferrandez au bout du fil et on parle de la traversée en voiture de ce Mont-Royal qu'il veut transformer en impasse. Il reconnaît que c'est un plaisir de prendre la montagne pour traverser la cité, surtout au coucher du soleil ou quand la ville stresse et que ses arbres relaxent. Mais le maire du plateau et maintenant responsable des parcs à la ville, ne bronche pas. Il veut en faire un cul-de-sac. Un cul-de-sac à auto, un chemin sans issue, une voie sans compromis. On discute et on a justement l'impression d'être au bout d'une route qui ne veut pas aller plus loin. Son idée est faite. Même s'il est d'accord que grimper et descendre tranquillement la montagne en voiture pour passer de l'est à l'ouest de la ville est un moment de bonheur, il faut y mettre fin. Faites le deuil de votre parkway, m'a-t-il dit hier en entrevue, la discussion est terminée. M. Ferrandez est convaincu que dresser un mur entre l'Est et l'Ouest est la seule solution aux tragédies routières. Dites-lui que ce chemin fait partie de nos quotidiens, de nos plaisirs à vivre en ville, qu'il relie 2 versants de la ville géographiquement et culturellement, qu'il est au cœur de nos paysages urbains, que ceux qu'on veut voir tous les jours, et on parle ici de paysages, pas juste les week-ends, qu'il fait partie des lieux spectaculaires qu'on montre aux touristes, bref, de notre ADN, et il évoquera la mort du jeune cycliste l'automne dernier. C'est vrai que cet argument est efficace. Personne ne veut être contre la vertu et avoir l'air d'un gros cave insensible. Pas facile donc de dire haut et fort qu'on est contre ce projet pilote devant entrer en vigueur au printemps. J'ai d'ailleurs tout entendu depuis que j'ai commencé à dire que je n'étais pas d'accord avec cette idée de nous obliger à faire un demi-tour une fois rendu en haut du Mont-Royal, de revenir sur nos pas. T'aimes pas le vélo? T'es pro-auto? Et la mort du jeune cycliste? Soupir. Évidemment, j'adore le vélo. Je ne suis pas exactement une conductrice de VUS fanatique de la pollution et de la congestion. Et oui, j'ai été profondément touchée par la mort du jeune Clément Ouimet. Et je demeure follement inquiète pour les autres cyclistes qui s'éclatent sur la voie Camillien Houde comme ils le faisaient, à des vitesses de folie, comme l'a décrit sa mère dans l'entrevue accordée à la presse. Je suis même très sensible à la nécessité d'apporter d'importants correctifs à la situation actuelle pour chasser les cow-boys du volant. Mais est-ce que je trouve qu'il faut empêcher totalement les Montréalais de traverser la montagne? Non. Je déclare mes intérêts. J'utilise ce chemin. Pourquoi? Parce que c'est une route magnifique. Ce n'est pas une façon de gagner du temps, à moins de bouchons majeurs liés à la construction sur Côte-Sainte-Catherine, Édouard Monty, l'avenue des Pins ou Dr. Penfield, il ne fait pas gagner du temps. Prendre ce chemin, c'est plutôt juste pour moi une façon de plonger dans le parc et vivre autrement la ville. Et je me dis « wow » chaque fois. Prendre ce chemin apporte la montagne dans ma vie d'une autre façon que la course sur le chemin Homestead ou le patin au lac au Castor. Je prends ce chemin de la même façon que lorsque j'habitais Ottawa. Je prenais la promenade du colonel Bay pour longer le canal Rideau et traverser la capitale du nord au sud. Ce n'est généralement pas plus rapide, juste tellement plus zen et joli. C'est une façon différente de se déplacer. C'est ce que les concepteurs de ces parcs voulaient en faire. Dans son entrevue au micro de Paul Arcand il y a quelques jours, comme avec moi hier, Luc Ferrandez a en outre été très clair. Le but de la conversion des chemins du Mont-Royal en cul-de-sac n'est pas uniquement une question de sécurité. Le but, c'est aussi de déplacer la circulation ailleurs. Et si cela crée d'autres bouchons, tant pis. L'administration veut convaincre les Montréalais de ne plus prendre leur voiture. Mais est-ce une bonne façon de changer les habitudes? N'y a-t-il pas moyen plutôt de chercher des compromis? Et veut-on vraiment augmenter la circulation sur les deux axes évidents de contournement de la montagne, Édouard-Montpetit et Despins, qui tous deux transpercent les campus de deux universités et sont fréquentés chaque jour par des milliers d'étudiants? Quand il y aura un accident en face de l'Université de Montréal ou de McGill, un jeune fauché par un chauffeur fâché, bloquera-t-on ces artères aussi? Le problème que l'on veut diminuer, c'est la vitesse et le nombre de voitures. OK. Et on veut protéger les cyclistes. OK. Pourquoi pas plus de feux, d'arrêts, de dos d'âne, de limites de vitesse plus strictes, une voie plus étroite, une piste cyclable aménagée de façon sécuritaire? Pourquoi ne pas limiter la circulation sur des périodes précises, le week-end, comme on fait à Central Park, ou limiter le transit durant les heures de pointe, comme on le fait pour limiter l'achalandage utilitaire de certains secteurs dans toutes sortes de villes européennes? Les solutions possibles sont multiples. Et que va-t-on faire exactement avec les cyclistes qui descendent de la côte à 80 km/h, circulation bloquée en cul-de-sac ou pas? On les protège comment exactement d'une chute ou d'un accident? Et on fait quoi des visiteurs arrivant de l'Est qui voudront accéder au secteur ouest, là où on patine et où on fait des barbecues? Devront-ils faire le tour de la montagne pour arriver du bon côté? Même chose pour ceux qui arrivent de l'ouest et veulent juste aller au Belvédère et dont les voitures seront bloquées presque à mi-chemin de leur périple. La liste des aberrations est interminable. Mais la principale absurdité, c'est cette idée que bloquer une voie, couper une ville en deux, isoler un parc est une solution pour avancer, s'unir et se développer. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne et restez avec nous si vous nous écoutez en direct. J'anime dans quelques minutes les paractualités. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical, même aux demandes spéciales. Bonne Saint-Valentin tout le monde!